Chapitre 50. Second jour à Muskegon. J'échappe à un assassin. Le soleil brillant illuminait à peine les eaux paisibles du lac Michigan, le second jour depuis mon arrivée, que deux de mes chers compatriotes venaient frapper à ma porte pour m'avertir d'un danger aussi menaçant qu'imprévu. « Parmi vos auditeurs, hier soir, me dirent-ils, il y avait un jeune homme nommé Beaucaire qui, bien qu'à moitié ivre, savait parfaitement ce qu'il disait. Il n'était pas à 50 pas de la porte que nous l'entendîmes jurer que vos paroles contre son église étaient les dernières de votre vie. Il jura qu'il vous tuerait raide d'une balle de revolver. Ce soir, si vous osez continuer à parler comme vous l'avez fait hier soir. Nous sommes venus vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout en faisant usage de notre avis pour prendre vos mesures et vous mettre sur vos gardes, ne parlez à qui que ce soit de l'avertissement que nous vous apportons ce matin, car ce jeune homme a du sang indien dans les veines. Son arrière-grand-mère était une squaw iroquoise et il est aussi cruel, aussi féroce et aussi sanguinaire que ses sauvages ancêtres. Il nous tuera s'il apprend que nous vous avons prévenu de son intention criminelle. Je leur répondis. Sans doute c'est son prêtre qui lui a suggéré que c'était son droit et son devoir de me tuer. Dans les livres papistes authentiques, il est positivement dit que ce n'est pas un péché pour un catholique de tuer un protestant. Il y a plus. Il y est dit que c'est une chose si sainte et si méritoire de tuer un hérétique que tous les péchés de l'homme qui me tuerait lui seraient pardonnés instantanément. Quand j'ai quitté l'église romaine, j'ai pesé ce que cela me coûterait. Ils ont déjà essayé plusieurs fois de me tuer, mais ils ont échoué. J'ai l'espoir que le même Dieu miséricordieux, dont la main m'a protégé jusqu'ici, me protégera encore ce soir. Cependant, nous devons être prudents et prendre les précautions que la situation demande. Je vois que vous êtes du nombre des soldats qui ont été honorablement déchargés du service militaire. Voulez-vous suivre mon conseil ? On m'a dit que vous aviez dans ce village une demi-douzaine de jeunes gens dans le même cas que vous. Essayez de vous entendre avec deux ou trois de ces jeunes gens, aussi bien disposés envers moi que vous l'êtes vous-même. Apportez vos fusils, cachez-les soigneusement sous vos habits ce soir, quand vous viendrez à la réunion. Entourez ce jeune homme et surveillez-le de très près. Si vous voyez qu'il manifeste le moindre désir de faire du mal, aussi vite qu'un soldat bien exercé peut le faire, braquez le canon de vos fusils en plein visage et dites-lui rudement « Vous êtes un homme mort si vous touchez au père Chiniki ou à qui que ce soit ici. » Vous constaterez que la vue de ses fusils, si près de son visage, modifiera ses opinions personnelles. Vous changerez le loup en agneau. Ne lui faites aucun mal, mais arrachez-lui le pistolet ou la dague des mains et mettez-le entre les mains des magistrats de cette ville que vous engagerez à venir en personne à la réunion. Suivez bien mon avis et prenez garde qu'il n'ait aucun soupçon de ce que vous voulez faire. » Ces braves gens, compatriotes, suivirent mon conseil avec la plus grande exactitude. À l'assemblée du soir, la foule de ceux de mes compatriotes qui voulaient savoir pourquoi j'avais quitté l'église de Rome était encore plus grande, si possible, que la veille. Mon but ce soir-là était de leur montrer le culte sacrilège et idolâtre de Marie. Après leur avoir dit que nous devions respecter la mémoire de la mère du Christ, comme de la femme la plus bénie qui ait jamais existé, j'ajoutai qu'il nous était défendu de l'appeler mère de Dieu. Je leur montrai que Dieu était éternel et n'ayant point de commencement, ne peut avoir de mère. Elle était la mère du Christ seulement comme homme. Si c'est une chose si sainte de rendre un culte à Marie, comme les catholiques le font pour obéir à leur église, comment se fait-il que Pierre, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, dit « Il est la pierre angulaire que vous avez rejetée. Il est cette principale pierre du coin que vous avez rejetée. Il n'y a point de salut par aucun autre, car nul autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. » Quand le Saint-Esprit, par l'entremise de Pierre, nous dit que le nom de Jésus est le seul par lequel nous puissions être sauvés, quel droit le pape a-t-il de vous dire que vous devez invoquer le nom de Marie pour être sauvé ? Ces dernières paroles étaient à peine prononcées que toute l'assemblée fut bouleversée par ce cri furieux. « Infâme apostat ! Ce sont les derniers blasphèmes qui tomberont de tes lèvres maudites !» Aucune parole ne saurait donner une idée de la terreur et de la confusion qui suivirent quand le peuple entendit ces paroles menaçantes et vit le canon d'un revolver braqué sur moi de si près qu'il me touchait presque le visage. « mon Dieu, arrêtez-le, arrêtez-le » criait-on de tous les côtés. Mais, avec la rapidité de l'éclair, le meurtrier vit les canons de quatre fusils si près de sa figure que l'extrémité en touchait la peau. Il entendit en même temps des voix qui lui criaient « Vous êtes un homme mort si vous remuez un doigt. Lâchez ce pistolet ou nous vous faisons sauter la cervelle. » À peine le meurtrier avait-il entendu ces paroles qu'il laissa tomber le pistolet sur le plancher et, mettant les mains sur son visage, s'écria d'une voix suppliante. « Pour l'amour de Dieu, ne me tuez pas, mon Dieu, épargnez-moi !» Mais quatre braves jeunes gens, lui mettant la main au collet, lui dirent « Vous êtes notre prisonnier. Voici un magistrat qui a été témoin de vos intentions criminelles. Nous allons vous remettre entre ses mains afin qu'il en agisse avec vous suivant la loi. » Tremblant de la tête aux pieds, le jeune criminel répondit « Pour l'amour de Dieu, faites de moi ce que vous voudrez, mais épargnez ma vie. Je confesse que je suis coupable d'un grand crime contre vous, père Chiniki, mais je vous demande pardon. Ne me faites pas punir comme je le mérite. » Je lui répondis « Je ne veux pas vous faire punir comme vous le méritez, mais vous ne pouvez nous blâmer si nous demandons la protection des lois de notre pays pour sauver notre vie. » En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, sur l'ordre du magistrat, les menottes furent mises sur ce jeune criminel et on lui ordonna de marcher à la prison en attendant que la loi suivît son cours. Le pistolet fut ramassé par le magistrat qui constata qu'il contenait 4 balles qui m'étaient destinées si Dieu ne m'avait pas protégé d'une manière si visible. Naturellement, l'indignation de la foule ne connaissait pas de bornes et l'infortuné jeune homme ne serait pas sorti vivant de la salle si je n'avais demandé grâce et arrêté les bras de ceux qui pensaient que les procédures de la loi étaient trop lentes pour un crime aussi manifeste. Ce fut seulement en exerçant toute l'influence que je pouvais avoir sur cette multitude que j'empêchais une nouvelle application de la loi de Lynch. J'avais avec moi le 4e volume des œuvres de saint Thomas. Je l'ouvris à la page 90 et je leur lus les paroles suivantes de cet auteur qui ne sont que l'expression de la doctrine de l'Église catholique. Quoique les hérétiques ne méritent point d'être tolérés, nous devons attendre qu'ils aient été avertis 2 fois. Mais si, après la seconde admonition, ils refusent de se repentir et de se soumettre à la Sainte Église, ils doivent être non seulement excommuniés, mais livrés aux bras séculiers pour être exterminés. Saint Thomas d'Aquin, livre 4, page 90. Après avoir lu cette règle de l'Église catholique, je dis à mes chers compatriotes, ce n'est pas contre cet infortuné jeune homme, c'est contre l'Église romaine que vous devez manifester votre indignation aujourd'hui. C'était seulement pour obéir à cette Église et suivre ses enseignements qu'il voulait m'enlever la vie. Je sais de bonne source qu'il a passé la plus grande partie de la journée d'hier avec son confesseur. Il n'y a pas de doute, d'après ce que nous avons entendu de lui, qu'on ne lui ait monté la tête pour commettre ce crime. On lui a dit, ce que tous les prêtres disent de moi, que je suis un monstre indigne de vivre, un damné, destiné à l'enfer par le Tout-Puissant aussi bien que par son Saint-Pape. On lui a probablement promis le pardon de tous ses péchés s'il voulait attenter à ma vie. Partout où l'Église de Rome a eu le pouvoir de le faire, elle a persécuté les protestants de toutes ses forces. Elle les a emprisonnés, elle a confisqué leurs biens, les a envoyés en exil et même mis à mort. Avant la conquête du Canada par les Anglais, il était défendu aux protestants de vivre dans ce pays. Ils avaient le choix entre l'exil ou les galères, s'ils persistaient dans la religion évangélique. En France, des milliers de personnes ont perdu la vie ou ont été forcées de mourir à l'étranger pour avoir embrassé le protestantisme. Dans la nuit de la Saint-Barthélemy et les 4 ou 5 mois qui suivirent, 75 000 protestants furent massacrés en France par l'ordre du pape. La nuit entière ne serait pas assez longue pour vous raconter les tortures, les persécutions, les massacres exercés contre les protestants par l'ordre du pape en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Hollande et dans tous les autres pays où l'Église de Rome était assez forte pour faire exécuter les lois de sang et de meurtre qu'elle avait édictées contre ceux qui refusaient d'adorer ses idoles et de se prosterner aux pieds de son pape et de ses évêques. Vous avez vu de vos propres yeux ce soir même l'un des actes engendrés par préceptes positifs de Rome. Est-ce votre désir de continuer à appartenir à une pareille Église ? Il y eut un cri général de « Non, non, nous ne voulons plus être les esclaves d'un pareil système d'intolérance et de persécution. » Et j'eus l'ineffable joie de voir la foule tout entière de mes chers compatriotes abandonner le joug pesant et ignominieux du pape afin d'accepter l'Évangile de Jésus-Christ pour leur seule règle de foi.